Bonjour chères auditrices et chers auditeurs. Merci de nous rejoindre pour votre santé, votre avenir sur VOA Afrique, The Voice of America, depuis Washington DC. À la présentation, Nanit Talani. Se rendre chez le médecin quand tout va apparemment bien n'est pas une démarche évidente pour beaucoup de gens. Pourtant, c'est un atout de faire régulièrement le point sur son état physique. C'est ce qu'on appelle un bilan de santé ou check-up médical. Dans la pratique, de quoi s'agit-il ? Pourquoi faire un bilan de santé ? Quels en sont les bénéfices ?
Le bilan de santé permet d'évaluer l'état de santé de la personne, de décider d'éventuelles pathologies ou infections qui sont latentes. Au-delà de cela, de proposer en fait une prise en charge précoce du patient, c'est-à-dire la prévention.
Notre invité Sékou Cheikh Bomba répondra à ces questions et à celles que vous avez laissées sur la page Facebook de VOA Afrique. Sékou Cheikh Bomba est le PDG de CBS Systems en Virginie aux États-Unis avec une filiale en Côte d'Ivoire. Il est aussi doctorant en ingénierie management et il a inventé Apollo, une application qui favorise la promotion de la santé en Afrique. Après cette discussion, vous suivrez dans la deuxième section de notre émission Carnet de santé avec Linor Moudou.
Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine.
Nous vous proposons maintenant de suivre notre discussion avec Sékou Cheikh Bomba. Bonjour Cheikh.
Bonjour.
Merci d'être notre invité pour cette émission qui est consacrée au check-up médical ou au bilan de santé. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'un bilan médical ?
Un bilan de santé est un acte préventif désignant l'ensemble des examens médicaux subis par un individu.
À quoi sert-il ?
Le bilan de santé permet d'évaluer l'état de santé de la personne, de décider d'éventuelles pathologies ou infections qui sont latentes. Il y a aussi la possibilité, au-delà de cela, de proposer en fait une prise en charge précoce du patient, c'est-à-dire la prévention.
Donc les bénéfices d'un bilan de santé, c'est au niveau de la prévention d'une maladie?
Je dirais oui, ça c'est la plus importante situation qu'on peut tirer du bilan de santé, c'est la prévention, mais il y a la constatation aussi. Parce que quelqu'un peut être bien portant et toujours souriant, mais il traîne une maladie. Il n'a pas encore été complètement déclenché, mais il a déjà la maladie. Et à ce niveau-là, avec un bilan de santé, on peut avoir des informations. Le corps humain change. Chaque seconde que nous prenons, notre corps s'adapte à notre environnement, à tout ce qui nous entoure, notre manière de nous nourrir, l'alimentation et tout impact sur le corps humain.
À cause de tout ça, le corps, il a besoin d'un check-up médical ou d'un bilan de santé.
On pourra considérer ça comme une machine. S'il n'y a pas l'entretien de cette machine, on ne pourra pas en fait savoir qu'est-ce qui se passe. Le bilan de santé est un diagnostic en réalité du corps humain. Il y a assez d'avantages. Le corps subit des évolutions, transformations. Il y a un dispositif d'examen biologique suivi d'un contrôle de poids, de tension, de vue, audition, de réflexe. Il pourrait se rapprocher de l'idée d'une révision. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'importance dans ce bilan de santé.
Quels sont les examens qui sont recommandés ou pratiqués pendant le bilan de santé?
Il y a l'examen biologique, normalement une prise de sang, l'analyse de l'urine. Il y a des tests visuels et auditifs, l'électrocardiogramme que les Américains appellent la plupart du temps et EKG, un examen bucco-dentaire.
Pendant un bilan de santé, y a-t-il des examens spécifiques suivant certaines catégories de personnes?
Il y a la possibilité pour les patients qui sont déjà en âge, plus de 65 ans, 70 ans, la possibilité d'identification de l'Alzheimer et différentes maladies. Pour des fumeurs, il y a la radiographie pulmonaire. Pour les femmes, il y a la gynécologie, les plusieurs examens. En fait.
Nous avons un auditeur, Gakdos Kebabe, depuis N'Djamena au Tchad. Il demande quel est l'âge recommandé pour commencer à faire son bilan de santé.
Je dirais un jour.
Donc, dès qu'on est quoi?
Dès qu'on est déjà, ça c'est déjà fait, mais après une semaine, tout individu peut chercher en fait à avoir un bilan de santé. Et c'est très très important, il n'y a pas d'âge, c'est vraiment recommandé. Et je dirais une fréquence annuelle serait la meilleure approche. Et certaines personnes que je connais font à une fréquence biannuelle, c'est-à-dire deux fois par an.
Donc cela signifie que le bilan de santé s'adresse aux enfants, aux jeunes, aux adultes, aux vieux, aux femmes, aux hommes, aux citadins, aux villageois, aux professionnels, à tout le monde?
seulement, toute la population entière.
Où est-ce qu'on peut faire ce bilan de santé? Est-ce qu'on peut se rendre chez l'infirmier chez qui on va toutefois quand on se sent mal, ou il faut aller à l'hôpital dans un grand centre?
Normalement, ce qui est recommandé, c'est de se retrouver dans un centre hospitalier universitaire, pour employer le lexique francophone. Dans un pays francophone, je pense que nous avons des centres hospitaliers universitaires. Nous avons des centres hospitaliers régionaux. N'importe en fait quel centre, je dirais, de santé communautaire ou urbain, clinique privée, qui a en son sein un personnel qui puisse pratiquer la médecine générale, c'est possible. Dans tout endroit où se trouve un médecin général ou un infirmier, il est possible de faire un bilan de santé annuel.
Ça doit coûter cher.
Je l'affirme, ce n'est pas gratuit. En Afrique, surtout que dans certains pays, même avec l'assurance, il faut encore payer pour le bilan annuel de santé. Mais nous avons pensé à cette solution. Voilà pourquoi, au sein de SCB System, nous avons créé l'application Apollo.
L'application Apollo qui permet de faire quoi?
L'application Apollo, en fait, te permet de vulgariser le bilan de santé. Avec Apollo, par exemple, nous permettrons de réduire tout le coût du bilan de santé en employant une économie d'échelle. C'est-à-dire, nous pouvons aller vers une clinique ou un médecin et lui dire, nous allons vous apporter like, 1 million de patients par an sur qui vous devez fermer le bilan de santé annuel. Like, provide the service.
Pour fournir les services.
Yeah, merci, yeah, fournir le service. Donc, avec cette approche, si le bilan de santé coûtait normalement 10 000 francs, parce que le prix varie entre 10 000 et 100 000 dans certains pays francophones. Donc, si normalement il devait charger 10 000 francs pour 20 patients par an, parce que c'est vraiment pas une pratique répandue en Afrique, on lui dira nous apporterons 1 million de personnes, donc il serait préférable que tu fasses à juste 1 000 francs. Ce gars peut être OK avec parce qu'il verra cette entrée de capital.
Vous faites tout ça pour vulgariser le bilan de santé et faire la promotion de la santé en Afrique?
Nous avons une approche pour vulgariser le bilan de santé en Afrique. C'est ce que nous travaillons.
Vous êtes le directeur de CBS Service. Vous avez créé une application pour faire la promotion de la santé en Afrique.
Yes.
C'est un sujet tellement important que nous allons y revenir pour une autre édition de Votre Santé, Votre Avenir. Pour revenir au bilan de santé, est-ce que cette notion est assez familière en Afrique? Est-ce que les Africains font facilement le bilan de santé, même ceux qui ont de l'argent?
Je dirais non. Je dirais non, parce qu'en 2018, nous avons fait une recherche qui a prouvé que moins de 2% de la population en Afrique de l'Ouest pratiquait le bilan de santé. C'était vraiment pas courant. Et au ressort, en fait, de notre recherche, nous avons constaté que la majorité des personnes, même des médecins et tout, ils ont pris pour l'habitude de se rendre à l'hôpital lorsque c'est déjà grave. On ne pratique pas la prévention, en fait, en Afrique. Et ça, c'est, je pense que la base de tous nos maux.
Alors que quand c'est déjà grave, parfois ça peut conduire à trop tard.
Yes.
En quelle année vous avez fait cette étude?
En 2018.
Et seulement en Afrique de l'Ouest?
Yes, en Afrique de l'Ouest.
Est-ce que vous avez une idée du nombre ou bien du taux des personnes qui font régulièrement un bilan de santé dans toute l'Afrique?
Nous n'avons pas spread out. Pour Dieu, n'est-ce pas? Je trouvais le mot en français. Nous n'avons pas, en fait, fait...
Conduit une étude?
Conduit, merci. Conduit l'étude sur l'entièreté de l'Afrique, vu que nous avions comme communauté de base l'Afrique de l'Ouest, et nous avions cherché à pénétrer avec notre nouveau service. Donc, le taux annuel en Afrique, je dirais toujours que c'est vraiment bas, parce que pour l'Africain lambda, le bilan de santé n'est pas dans sa culture, donc je peux prédire que ça sera moins de 10%.
Est-ce que même les Africains qui ont de l'argent ont l'habitude de faire des bilans de santé?
C'est pire en fait, parce que les Africains qui ont le moyen de faire des bilans de santé n'en font pas. Ils se disent qu'ils sont toujours bien portants et lorsqu'ils auront une maladie, ils pourront immédiatement se soigner. Ils se disent oh, nous n'avons pas de temps, nous sommes vraiment pris. Nous ne pourrons pas perdre une heure ou une journée de notre temps pour aller juste check notre statut au niveau de notre santé. Ça, c'est vraiment un problème. Peu de personnes en fait le font. Même certaines personnes qui ont vécu à l'étranger, la diaspora qui se retrouve en Afrique, ne le pratiquent plus. Juste parce qu'ils ne sont pas orientés ou juste qu'ils perdent immédiatement cette habitude-là se retrouvant sur le continent africain.
Est-ce que l'absence d'un bilan de santé contribuerait aussi au taux élevé de mortalité dans les pays africains?
Là, je le confirme. Je suis à 1000%, je dirais, sûr que le plus gros problème de l'Afrique, c'est la prévention. Le bilan de santé est à la base de la prévention. Parce que, je peux vous dire, l'Afrique subsaharienne a que 11% de la population mondiale, mais cette Afrique subsaharienne a 70% des maladies transmissibles et non transmissibles. Ça, c'est vraiment incroyable. La malaria, tout ce genre de maladies, nous pouvons les identifier avec uniquement un bilan de santé. Il faut les identifier à la base.
identifier ces maladies pour mieux les combattre?
Lorsque ces maladies seront identifiées, on pourra mieux les prévenir, mieux les soigner et réduire le taux d'infection. Notre approche, nous appliquons l'intelligence artificielle pour dégager certaines zones qui seront à risque, que nous pouvons planifier à l'avance des campagnes de vaccination. Lorsque vous ne savez pas, aucune campagne de vaccination ne peut vraiment prospérer. Dites-vous que si dans un village de 1000 personnes, aucune personne n'a déjà été vaccinée ou n'a déjà fait un bilan de santé, nous ne pouvons pas savoir qui souffre de quoi, qui a quoi. Et ça, c'est un très, très grand problème parce qu'on n'arrivera jamais à résoudre un problème sans savoir la cause, la racine en fait. Et le bilan de santé permet de décortiquer cette racine-là.
Merci beaucoup. Nous avons un autre auditeur, Marius Gris, mais il n'a pas dit d'où il écrit. Il se demande si l'ignorance ne contribue pas aussi à l'absence du bilan de santé dans les pays africains.
Je dirais que l'ignorance serait un gros mot, mais je dirais que le manque d'informations et une politique sociale qui privilégie le bilan de santé serait en fait à la base de ce manque-là. Parce que certaines personnes le savent, mais ne le font pas. Certaines personnes ne le savent pas et se disent que c'est déjà coûteux parce que l'Africain lambda cherche à avoir 2 dollars par jour, voire qu'il doit aller dépenser peut-être 10 dollars ou 20 dollars. Donc, c'est dire, mais si je suis bien portant, pourquoi j'irais dépenser de l'argent inutile? Certains considèrent que c'est inutile juste parce que leur niveau social ne leur permet pas d'apprécier la valeur de ce système. Donc, on dira le manque d'information.
Tout en tenant compte de la pauvreté financière des populations africaines, comment est-ce qu'on peut les aider à être sensibilisés sur ce problème?
C'est une très, très belle question. Il faut une politique gouvernementale qui facilitera cela, qui est une prise en charge. Il faut aussi une réelle implication des organisations internationales. Et tout cela part de la base des données. Il faut arriver à les identifier. Tous ces Africains dans les zones les plus reculées, tous ces Africains qui sont en ville, il faut arriver à les identifier. L'identification est le plus gros problème africain. Lorsque vous aurez identifié toute cette population, vous pourrez personnellement contacter chaque personne, avoir des rendez-vous pour que cette dernière puisse faire le bilan de santé. Il faut une politique gouvernementale. La politique gouvernementale doit être au centre de tout. Il faut une collaboration du gouvernement, de la société privée et des institutions internationales qui faciliteront toute innovation dans le but de vulgariser le bilan de santé et la vaccination accurate, la vaccination précise. Je peux vous rassurer qu'avec un bilan de santé, toute campagne de vaccination pourra atteindre une précision jamais vue auparavant.
Est-ce que les politiques sanitaires, les infrastructures sanitaires, les hôpitaux, le nombre des médecins dans les villes ou dans les villages en Afrique sont favorables à une prise de conscience des populations africaines quant au bilan de santé qu'elles doivent faire de façon régulière?
Je dirais non. Vu que les infrastructures en place peuvent faciliter le bilan de santé, mais l'utilisation de ces infrastructures déjà qui sont à la limite archaïque ne permettent pas à l'individu lambda d'avoir accès et de recevoir un bilan de santé. Vu qu'il y a plusieurs problèmes, il y a le problème culturel, il y a le problème financier et il y a le manque d'informations. Et lorsque le plateau technique n'est pas assez percutant, assez performant, parce que disons que pour un bilan de santé, il faut mobiliser un infirmier, un docteur qui va le performer, qui prendra en moyenne 2 heures et plus, combien de personnes seront à mesure de recevoir cela, sachant que nous sommes underserved, nous avons moins de médecins disponibles pour la population. Dans les pays développés, nous avons pratiquement 4 médecins pour 1000 habitants. En Afrique, il se trouve que nous avons moins de 1,15 médecins pour 1000 habitants. Donc, vous voyez que nous n'avons que 360 jours. Lorsque nous partons dans un pays développé et nous disons, OK, avec 4 médecins pour 1000 habitants, nous retrouvons à 250 habitants par médecin. Donc, en une année civile de 360, le médecin peut être à mesure de consulter toute personne.
On sait que la plus belle femme au monde ne peut que donner ce qu'elle a. Donc, les populations africaines qui n'ont pas les moyens de se faire un bilan de santé, qu'est-ce qu'elles peuvent quand même faire pour prévenir certaines maladies?
La base serait d'être active. Cette population, je pense qu'elle est déjà assez active. Donc, d'être active, prendre soin de son hygiène, de vérifier la provenance de différents aliments et d'avoir une hygiène publique un peu plus améliorée. Nous avons constaté qu'en Afrique, il y a un peu de laisser aller avec la propreté. Quelqu'un qui vit dans un quartier, il voit qu'il y a une eau stagnante, il ne sera pas en mesure de chercher à résoudre le problème de cette eau stagnante. Ils seront OK à constater cela chaque jour, à apporter des moustiques, à apporter des maladies.
Pour terminer notre interview, est-ce que vous avez un conseil particulier à donner aux populations africaines ou aux autorités africaines en rapport avec le bilan de santé?
Le bilan de santé est très, 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 très important et je conseillerais à tout Africain de s'y habituer, d'imprégner cette pratique-là dans son quotidien. Pour un départ, il faut déjà chercher à pratiquer cela une fois par an, même, je dirais, une fois chaque deux années pour être OK pour un pays africain, mais l'esprit du bilan de santé annuel. Il faut s'y imprégner et chercher les nouvelles technologies qui seront en place pour pouvoir faciliter cette activité.
Merci beaucoup d'avoir été notre invité, Cheikh.
C'est avec un grand plaisir.
C'était notre discussion avec Sekou Cheikh Bomba, PDG de CBS System et doctorant en ingénierie management. Nous avons discuté sur l'importance du bilan de santé. À présent, carnet de santé avec Linor Moudou.
Vous suivez votre santé, votre avenir sur VOA.
Cette semaine, dans Carnet de santé, vaincre l'insomnie, un trouble du sommeil assez courant. Quelles sont les causes de l'insomnie et comment la surmonter? Un médecin donne quelques éléments de réponse. Ensuite, les experts tirent la sonnette d'alarme face aux faux carnets de vaccination Covid, de plus en plus accessibles sur la toile. Enfin, le Green Business College en Afrique du Sud s'attaque à la famine à travers une solution unique. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être en votre compagnie pour une nouvelle édition de Carnet de santé. Je ne parviens pas à dormir. Voilà l'une des plaintes que l'on entend souvent. L'insomnie est un trouble qui touche un adulte sur quatre dans le monde, selon l'OMS. L'insomnie correspond à une diminution de la qualité et de la quantité de sommeil. Ce trouble peut affecter négativement l'énergie, l'humeur, la santé et la qualité de vie d'une personne, selon les experts. Il existe diverses causes pour l'insomnie, notamment les repas tardifs, certaines conditions médicales et l'utilisation de certains médicaments. À quoi est due l'insomnie? Que cache-t-elle? Réponse dans ce reportage à la clinique Éloge de Kinshasa d'Alex Kati Kataï, d'Odé Zumbu, récit de Yeyet Mavinga.
Israël Mubouriki s'est dégourdi les jambes dans l'enceinte de cette clinique privée de Kinshasa. Le jeune homme de 23 ans vient de passer plusieurs jours dans cette clinique pour de soins appropriés. Il souffrait d'insomnie. Aujourd'hui, sa situation s'est beaucoup améliorée, même s'il faut encore bien tendre l'oreille pour comprendre ce qu'il raconte.
Je souffrais de plusieurs insomnies qui me troublaient le sommeil tout au long de la nuit et au cours de ces derniers mois. Et d'une psychose induite aux substances psychotoxiques.
Dans les couloirs, nous rencontrons Ruth. C'est la mère d'un jeune homme de 35 ans, interné dans une salle à côté. Son fils s'appelle Zéphir. Avec un regard attentionné, le jeune homme est maintenant calme. Il ne parle plus comme avant. Sa mère explique qu'il passait des nuits et des jours entiers sans fermer l'œil. Il ne faisait que parler. Une situation qui a duré plusieurs années.
Bon, et il avait des troubles mentaux qui lui ont causé de l'insomnie. Il ne faisait que monologuer. Maintenant, depuis que nous sommes arrivés ici, il y a un grand changement.
Les cas d'Israël et des Zéphir ne sont pas isolés. L'insomnie touche beaucoup de personnes dans le monde et en République démocratique du Congo. Il s'agit d'une pathologie qui se caractérise par la difficulté à dormir suffisamment, à s'endormir ou à rester endormi.
Est-ce que c'est le stress? Est-ce que c'est l'anxiété? Est-ce que c'est une dépression? Ou alors il y a une autre maladie? Chronique.
L'insomnie se soigne. Il est fortement déconseillé de faire l'automédication pour ce trouble. La consultation des médecins spécialistes est vivement recommandée.
Dans l'insomnie, parfois, nous procédons effectivement à une prise en charge comportementale. Nous recourons effectivement à la psychothérapie. Et nous essayons de modifier la qualité de la vie de quelqu'un pour que ça n'impacte pas négativement sur son état psychique, ça ne crée pas le stress, ça ne crée pas l'anxiété.
Il est possible de prévenir l'insomnie. Les spécialistes conseillent pour cela de pratiquer une activité physique quotidienne, de manger équilibré et éviter les repas lourds le soir.
Le docteur Kissa Mambéné est psychiatre à Windhoek en Namibie. Elle nous en dit plus sur l'insomnie et comment y remédier.
L'insomnie, dans un langage très simple, est un manque de sommeil. Mais l'insomnie inclut aussi l'incapacité d'obtenir un sommeil de qualité ou une quantité suffisante de sommeil la nuit. Et au bout du compte, on ne peut fonctionner normalement pendant la journée. Quelqu'un peut simplement dire non sans aucune capacité à identifier la raison. On dit juste la cause idiopathique ou inconnue de l'insomnie. Mais la majorité ont généralement d'autres troubles mentaux. Par exemple, ils peuvent souffrir de dépression. Et l'un des symptômes de la dépression est l'insomnie ou le manque de sommeil. Et ils savent qu'ils peuvent avoir de l'anxiété ou d'autres troubles mentaux, du stress aussi. Certaines études ont montré que les femmes sont plus sujettes à l'insomnie que les hommes. Et cela est lié également aux changements hormonaux. Vous savez que les femmes ont des changements hormonaux tout au long du mois. Les nouvelles mamans, celles qui ont donné naissance à des bébés, sont également à risque et souffrent d'insomnie. Si quelqu'un a des difficultés ou une qualité ou quantité de sommeil insuffisante pendant 3 jours ou plus par semaine, et cela depuis 3 mois ou plus, nous disons qu'il répond aux critères de l'insomnie. Si elle n'est pas traitée, cela aura un impact sur son bien-être mental. Et à cause de cela, une personne peut être sujette à d'autres troubles mentaux comme l'anxiété, la dépression, le diabète et d'autres troubles psychotiques. Si c'est un problème médical ou si quelqu'un est sous l'emprise d'un médicament, si l'un des effets secondaires de ce médicament est l'insomnie, alors vous devez changer de médicament et traiter la maladie sans cet effet secondaire de l'insomnie. Mais la plupart du temps, nous nous concentrons sur ce que nous appelons la psychothérapie, qui est appelée thérapie cognitivo-comportementale pour l'insomnie. Des études ont montré qu'elle est très efficace en matière de traitement. Mais il existe d'autres médicaments qui sont utilisés directement pour traiter l'insomnie et certaines des benzodiazépines comme l'orazépam ou le diazépam. Mais surtout, nous ne préconisons pas vraiment l'utilisation de somnifères car ils ont d'autres effets secondaires et ils présentent un risque de dépendance et d'addiction. Aussi, nous disons d'éviter de trop manger la nuit, mais aussi de ne pas dormir sans nourriture. Donc, vous devez manger, mais vous devez au moins manger 2 heures avant d'aller au lit et de laisser le corps digérer la nourriture, puis vous allez dormir.
Ici aux États-Unis, les spécialistes de la cybersécurité affirment qu'il existe des milliers de comptes sur les réseaux sociaux proposant de fausses cartes de vaccination aux personnes qui ne veulent pas se faire vacciner. Ils leur promettent d'ajouter leurs faux papiers de vaccination dans des bases de données électroniques. Un reportage de Lesia Bakale à Washington avec la voix de Yakuba Ouedraogo.
La plupart des Américains vaccinés contre le Covid-19 le prouvent en présentant un petit papier blanc rempli à la main. Il contient le nom complet de la personne, sa date de naissance, le type de vaccin qu'il a reçu, le nombre de doses et le numéro du lot. Il a été conçu pour informer et non pour protéger contre la fraude, selon Isaac Bledsoe, agent du département américain de la santé et des services sociaux.
The card itself. La carte elle-même est censée être un dispositif de communication entre un prestataire et un patient pour montrer qu'il est vacciné. Et même un rappel pour montrer le cas échéant qu'une deuxième dose doit être administrée.
Ce papier est largement utilisé comme preuve de vaccination aux États-Unis. Alors que de plus en plus d'entreprises demandent une preuve de vaccination, les autorités affirment que de plus en plus de fausses cartes sont utilisées.
We've seen
Début 2021, nous avons vu passer peut-être 5 à 6 plaintes par jour. Maintenant, nous recevons peut-être 20 à 25 plaintes par jour via notre hotline de fausses cartes de vaccination.
Les experts en cybersécurité affirment que les sites proposant de fausses cartes de vaccination sont passés du darknet à des sites plus largement utilisés.
C'est assez grave. Ils utilisent Facebook, Instagram, Telegram et WhatsApp pour commercialiser et promouvoir ces cartes.
Dans certains groupes en ligne, de fausses cartes de vaccination sont ouvertement proposées et des clients satisfaits publient même leurs photos avec des faux. Les experts de la Coalition pour un web plus sûr ont essayé et se sont rendus compte que les fraudeurs réagissent rapidement et garantissent la livraison dans tous les États-Unis pour $200. Les experts de Checkpoint Software Technologies affirment que les ventes ont considérablement augmenté après que le gouvernement fédéral a rendu le vaccin obligatoire pour les travailleurs fédéraux.
Vu l'obligation du vaccin anti-Covid dans certains pays, les observateurs disent que de plus en plus de personnes tentent d'éviter la vaccination en utilisant de faux carnets de vaccination ou passes sanitaires falsifiés. Qu'en pensez-vous? Voici vos réactions. Togiam Nanadoum Anjameda écrit: les gens évitent la vaccination en utilisant de faux carnets de vaccination ou passes sanitaires car il n'y a pas de consensus sur le sujet. Cela est devenu trop commercial. Beaucoup de gens doutent encore de l'efficacité du vaccin et s'inquiètent de ses effets secondaires. Christopher Randy écrit: c'est bon, nous ne voulons pas de ce vaccin. Et Moise Kabouik dit: à mon avis, il faut développer un appareil qui détecte si la personne est vaccinée ou pas. Comme de nombreux pays touchés par le Covid-19, l'Afrique du Sud a connu une augmentation de son taux de chômage et de la faim depuis le début de la pandémie. Notre correspondante à Johannesburg, Linda Gevetash, rapporte qu'une école, le Green Business College, s'attaque à ces problèmes de manière innovante. Elle donne aux gens les compétences nécessaires, non seulement pour cultiver leurs propres produits, mais aussi pour gagner de l'argent afin d'aider leur famille et construire leur carrière. Récit Yacouba Ouedraogo.
Dans ce centre communautaire de l'Est de Johannesburg, plus de 2 dizaines d'élèves acquièrent des compétences qui auraient été communes à la génération de leurs grands-parents. Le Green Business College leur enseigne les bases du jardinage biologique et de la conservation des aliments en préparant des confitures et des sauces. Pour certains, ça va au-delà du passe-temps qu'ils ont découvert lors du confinement dû à la pandémie.
C'est un art complètement perdu. La plupart de mes pairs de mon âge préfèrent acheter que fabriquer. Je veux me voir parmi les meilleurs détaillants. Je veux probablement arriver à un point où je peux gagner ma vie de manière durable en préservant le fruit de Maroula.
Faire de la recette de confiture de sa grand-mère décédée un empire serait un changement de carrière majeur pour cet homme de 32 ans qui travaille présentement pour un détaillant de vêtements de sport. D'autres étudiants espèrent que les compétences les amèneront simplement à entrer sur le marché du travail. Les administrateurs de l'école pensent que les cours peuvent inspirer les gens à créer leurs propres opportunités d'emploi tout en s'attaquant aux problèmes liés à la pauvreté.
Ils disent: donnez un poisson à un homme, vous l'avez nourri pour la journée. Apprenez-lui à pêcher, vous le nourrissez pour la vie. Tout est question de puissance. Reprenez votre puissance et utilisez-la bien. Investissez dans votre sol. Cela va vous être bénéfique pour que les gens puissent venir acheter chez vous et acheter bio.
L'Afrique du Sud souffre de ce que les experts appellent un double fardeau de malnutrition, connaissant des extrêmes de faim et d'obésité. Les petites fermes sont considérées comme faisant partie de la solution pour fournir des aliments sains aux communautés.
Nous croyons qu'il faut déplacer tout le régime alimentaire des gens pour les amener à consommer plus de produits frais, produire plus de nourriture au sein des communautés. Et puis évidemment, envisager les jardins potagers qui seront pour nous un élément critique très important de l'état d'esprit de l'Afrique du Sud.
L'école perçoit le potentiel pour plus de succès comme le sien. Elle a étendu ses offres de cours à travers l'Afrique australe afin que davantage de personnes puissent s'essayer à la culture d'épinards ou à la fabrication d'épices.
Fin de votre santé, votre avenir. Nous avons parlé de l'importance du bilan de santé avec Sekou Cheikh Bomba, PDG de CBS System en Virginie aux États-Unis avec une filiale en Côte d'Ivoire. Il est aussi doctorant en ingénierie management et inventeur d'Apollo, une application qui favorise la promotion de la santé en Afrique. Ensuite, Linor Moudou vous a présenté Carnet de santé. Ce magazine santé a été réalisé grâce au concours de Cheikh Thiero et de Carl Sterling qui était à la console. Nanit Talani à la présentation. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.